Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables dans ces pays n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Bien, nous parlons à présent de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Nous savons que des violations massives des droits de l'homme ainsi que des crimes les plus graves ont été commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003 sont documentées dans le rapport mapping des experts des Nations Unies. Des voix se sont levées pour réclamer la mise en place d'un processus de justice transitionnelle qui doit aboutir à l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger ces crimes. Alors c'est quoi un mécanisme de justice transitionnelle? Comment fonctionne-t-il? Où en est-on avec le projet de justice transitionnelle en République démocratique du Congo? Eh bien, Maître Rufin Luko Musubao, il est juriste et chercheur en droit, il est là pour échanger avec nous à ces sujets. Maître Rufin, encore une fois, bonjour.
Bonjour, merci. Je dis grâce à moi, n'oubliez pas aussi que ma thèse doctorat porte sur ce même domaine.
Ah, ça c'est intéressant.
Avec plusieurs publications, n'est-ce pas, par rapport à nos recherches en droit, nous sommes à une quinzaine maintenant.
D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi la justice transitionnelle?
D'abord, la justice transitionnelle, ça a commencé avec la Première Guerre mondiale et la Seconde, parce qu'on a constaté que les dégâts qui commettent les guerres, n'est-ce pas? Les guerres en général. Mm. Parce que là, le monde a vécu pour la première fois une guerre mondiale, c'est-à-dire qui engage presque toutes les nations du monde. C'est en 1914 et ensuite en 1945. Mm. Et donc, les dégâts n'ont pas été que matériels, c'est-à-dire la destruction des immeubles, des bâtisses, des constructions et consorts. Mmh. Et il y a eu beaucoup de dégâts humains. Donc, les assassinats massifs, les massacres, les dévastations. Mmh. Et ça, c'est pour ceux qui meurent. Mais ce qui reste maintenant, les victimes collatérales ou directes, ça veut dire les veuves, les orphelins, les vieillards sans appui, sans assistance, sans secours, parce que les enfants ont été tués au front, qui étaient des militaires engagés. Mmh. Et tous ces dégâts-là, pour ne citer que cela, ont nécessité ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice qui permet au bourreau d'être sanctionné, aux victimes d'obtenir réparation, aux autres victimes vivantes d'obtenir accompagnement social et médical, ensuite psychologique. Tout cet ensemble pour permettre à ces gens-là, donc je suis en train de parler en des termes accessibles à tous nos auditeurs, tout cet ensemble de mécanismes pour rendre justice à toutes les victimes de guerre, en attendant que la paix se rétablisse totalement, s'appelle la justice transitionnelle. Et donc, dans tout le pays...
Pourquoi ce mot transitionnel? Il y a une transition entre quoi?
Il y a une transition entre la guerre et le rétablissement total de la paix. Ou la guerre et la réparation intégrale. Donc la guerre et la remise des personnes plus ou moins dans leur situation avant la guerre. C'est ça la réparation. Mmh. Et donc, c'est intertransitionnel. Donc, pour permettre à ce que l'on ne puisse pas tourner la page des atrocités de la guerre, il faut une justice transitionnelle. C'est ainsi que donc les accords des nations ont considéré que chaque pays qui vient d'une guerre doit être assisté. C'est pourquoi vous voyez que dans la justice transitionnelle, c'est principalement la communauté internationale qui intervient. Donc dans la justice transitionnelle, comme ça a été fait en Afrique du Sud, après les conflits dits à l'apartheid, lorsque le chef de l'État Mandela a pris le pouvoir, il fallait une justice transitionnelle. Donc pour tourner la page de ces histoires-là, de toutes ces atrocités-là, les assassinats ciblés, les répressions des élèves, les répressions des étudiants, les répressions des politiques, les massacres, les assassinats dans les villages en Afrique du Sud, tout cet ensemble de effets
de cet apartheid devait être réglé par une justice transitionnelle. Alors, dans
notre pays,
pourquoi
on ne recoupe pas la justice normalement comme ça s'est fait?
Parce qu'on considère, c'est pourquoi j'ai dit que l'intervention de la communauté internationale dans ces mécanismes est le plus prépondérant. Parce qu'on considère que la plupart des guerres, il y a des acteurs et des implications extérieures. Et donc, les justices nationales ici des guerres sont d'abord paralysées, en sort affaiblies. Parce que pendant la guerre, la justice ne fonctionne pas. L'administration ne fonctionne pas. Donc, cette justice-là, victime des atrocités, victime de la guerre, ne peut pas, à elle seule, n'est pas renforcée pour faire justice aux victimes. Il faut donc un mécanisme qui implique la communauté internationale. Bon, si on prend, par exemple, la situation en ex-Yougoslavie. Donc, c'est presque tous les pays voisins qui étaient impliqués dans ce conflit-là, à commencer par l'IRSS, les États-Unis et l'Occident. Mmh. Si vous prenez le conflit en Syrie actuellement, vous voyez que la plupart des nations du monde, les grandes nations du monde, sont impliquées dans ce conflit-là. Ce qui fait qu'il y a des atrocités qui ne seront pas jugées si l'implication de la communauté internationale n'est pas garantie, parce que tout simplement, il y a des acteurs qui échappent à la justice nationale. Les acteurs qui échappent à la justice nationale nécessitent l'implication de la communauté internationale pour les atteindre. C'est ainsi une justice transitionnelle au-delà de la justice nationale qui, dans la plupart des guerres, en sort paralysée, renversée, ébranlée par les atrocités de la guerre. Parce que les guerres, la plupart des fois, les guerres arrivent pour ébranler toutes les institutions existantes.
Et qui doit mettre en place cette justice transitionnelle?
Alors, cette justice doit être mise en place d'abord par les gouvernements nationaux, appuyés de la communauté internationale. C'est pourquoi vous avez vu que chez nous, la société civile a crié depuis les années 90, parce que notre conflit n'a pas commencé en 94 avec les réfugiés rwandais. Notre conflit a commencé bien avant.
Bien avant.
Et c'est aggravé par l'implication de tous ces pays voisins. Et ça a été tellement dévastateur. On parle aujourd'hui de plus de 10 millions de morts. Les dégâts matériels, c'est-à-dire la faillite et le branlement de toutes les entreprises économiques qui étaient en train d'opérer à l'est du pays, au centre du pays. La plupart de nos entreprises là-bas sont toutes tombées en faillite. Toutes sont tombées en faillite à cause des guerres. Mais évidemment, il y a eu d'autres entreprises de guerre qui se sont enrichies énormément à la suite des guerres. C'est ainsi tous ces dégâts-là ont nécessité que la communauté internationale par la Cour internationale de justice puisse condamner l'Ouganda à payer à la RDC en 2002. En attendant qu'on calcule ces montants-là le jour du paiement, on l'avait condamné à 10 milliards de dollars. L'Ouganda doit payer. C'est pourquoi tout ce qui s'est fait à Beni et consorts pour construire des routes doit être traité, n'est-ce pas, par le gouvernement national d'une manière transparente et accompagné par notre parlement pour que Derrière ces réhabilitations des routes ou construction des routes, ne puissent être engloutis les 10 milliards. Parce que vous voyez que c'est l'Ouganda qui est très
intéressé. Que ça soit pas une façon de se racheter.
Que ça soit pas une façon rampante de payer un montant que vous payez 10 dollars pendant que vous deviez payer 200. Donc ça veut dire tout ça, c'est dans le cadre de la justice transitionnelle, mais au moins cette justice-là a été rendue et l'Ouganda a été condamné. On attend toujours la condamnation du Rwanda et du Burundi parce que ce sont les deux acteurs principaux qui doivent être plus condamnés sévèrement par rapport aux autres pays. Donc la justice transitionnelle concerne tout ça et en particulier toutes ces victimes du Kivu. Nord, Sud, Maniema, toutes ces victimes de l'Ituri, toutes ces victimes de la grande province orientale, toutes ces victimes du Nord Katanga, du Katanga, toutes ces victimes de Lubao au Kasai, toutes ces victimes de la rupture du courant, c'est-à-dire le barrage d'Inga lorsqu'on avait coupé le courant. Cet ensemble-là.
Alors, la justice transitionnelle concerne seulement les crimes documentés dans le rapport mapping ou c'est...
Non, il n'y a pas que ça parce que le rapport mapping concerne un délai. Concerne un délai, mais au moins le rapport Mamping a l'avantage d'être un rapport de la communauté internationale, de l'organisation consacrée à la bouche autorisée des droits humains, l'Agence des Nations Unies à Genève qui a diligenté, n'est-ce pas, cette équipe, et l'équipe qui a donné ce rapport aux Nations Unies, même si les pays qui étaient amplement cités ont fait tout jusqu'à ce jour qu'il n'y ait aucune conséquence, la population congolaise attend toujours, n'est-ce pas, que c'est mécanisme puisse être mis en place. Nous nous rappelons qu'en 2007, le gouvernement congolais, avec à l'époque le ministre Luzolo Bambilesa, avait introduit le projet de chambres spécialisées, rappelez-vous. Alors, mais comme la plupart des bourreaux
et les représentants sont dans des institutions ici, ils se sont battus comme des fauves pour que cette loi-là, des
pour bloquer cette loi.
Pour bloquer, ça a été bloqué.
Maître, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'accueillir Monsieur Abdelaziz Thioye. Il est directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Monsieur Abdelaziz Thioye, bonjour. Monsieur Abdelaziz Thioye, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, chers collègues, et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission, Monsieur Abdelaziz. Nous parlons de, du projet de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Alors, dites-nous, où est-ce qu'on en est avec la, la mise en place de cette justice transitionnelle?
Merci, merci beaucoup. Je dois vous lever d'emblée que, en vérité, il y a des efforts qui sont en cours et évidemment toute l'architecture n'est pas en place pour le moment, mais au moins il y a pour la première fois un engagement politique très fort soutenu par une mobilisation générale de la part des différents acteurs, société civile dans sa diversité, église, journalistes. Également Association de défense des droits de l'homme, survivants de la violence. Donc, vous voyez, les partenaires internationaux autour de ce projet. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que nous sommes à un moment historique avec une opportunité unique de pouvoir véritablement mettre enfin en place un processus de justice de transition en RDC. Alors, nous sommes en train, vous avez suivi la semaine dernière où nous avons effectivement lancé officiellement le démarrage des activités liées à la justice transitionnelle en présence du ministre de la, des Droits humains, soutenu par la Belgique. C'est une extension d'initiatives que nous avions commencé dans le Kassai, à la faveur aussi de ce rapport mapping sur le Kassai. Donc j'ai entendu mon co-débatteur ce matin parlait du rapport mapping. Donc, je voudrais dire que le rapport mapping est un rapport d'établissement des faits qui documente des incidents. De la même manière qu'il y a d'autres rapports qui ont documenté des faits, qui ont documenté des incidents et qui tentent d'établir des responsabilités. Donc, le rapport sur la situation du Kassai entre 2016 et 2017 peut être considéré quelque part aussi comme un rapport mapping sur le Kassai qui détermine des responsabilités et identifie des incidents ainsi que leurs auteurs. Il y a eu une première tentative, au moins pour le Kassai, où effectivement, il y a des consultations populaires qui ont été organisées, des poursuites sont engagées sur des cas emblématiques. Et enfin, il y a quelques semaines, il y a eu l'adoption d'un édit provincial qui met en place une commission vérité et réconciliation, ce qui est une grande première pour la RDC dans une province. Ça rend compte de la diversité des situations, que les faits, les crimes de masse, disons les violences massives qui font l'objet des procédés et des mécanismes qui font en sorte qu'on puisse parler aujourd'hui de la justice de transition, ont cette diversité aussi en RDC. La situation n'est pas la même au Kassai que dans le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, le Tanganyika, l'Ituri et autres. Donc l'idée aujourd'hui est d'étendre cette expérience d'initiative décentralisée de justice de transition dans les différentes provinces pour capturer la diversité, mais avec un chapeau national qui va s'assurer de l'uniformité et de la mise en œuvre de l'ensemble de ces processus et de ces mécanismes qui sont à l'œuvre et que nous allons sur lesquels nous sommes en train de travailler. Pour dire qu'il y a un engagement fort du gouvernement, il y a aussi dans le processus d'adoption au niveau gouvernemental, la création d'un fonds d'indemnisation, mais également le processus aussi de mise en place d'une commission nationale, vérité, justice et réconciliation. Évidemment, l'idéal, ce serait effectivement qu'on aille rapidement vers l'adoption, l'élaboration d'une politique nationale de justice de transition qui va permettre de déterminer et de clarifier les différents niveaux d'intervention et ainsi que les différents niveaux d'engagement avec un niveau d'appropriation nationale assez conséquent.
Bien, Monsieur Thieu, on a suivi que la Belgique a octroyé 1 500 000 euros au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme pour appuyer la justice transitionnelle. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Comment comptez-vous utiliser ces fonds pour appuyer cette justice transitionnelle?
Alors, la Belgique est venue donner 1 700 000 euros sur environ 2 ans. Pour permettre d'étendre ce que je disais tout à l'heure, l'expérience du Kasaï au Tanganyika. Au Tanganyika, nous sommes déjà en train d'étendre un processus qui est en cours avec le Fonds de consolidation de la paix. Ça concerne les révolutions spontanées des combattants, mais ça concerne aussi le Kasaï du côté de Tshikapa. Ça va concerner maintenant, avec le soutien de la Belgique, ça va concerner le Nord Kivu, le Sud Kivu, et les touristes. La seule différence avec les trois provinces que j'ai citées précédemment, c'est que ce sont effectivement des provinces qui, malheureusement, sont encore concernées par le conflit. Même si, en Outre, il y a un accord de paix avec les FRP qui peut servir de base de travail pour avancer vers la mise en place de consultations avec les communautés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La justice de transition est une approche basée sur les victimes, qui essaie beaucoup plus de recueillir leur point de vue sur leur desiderata, comment ces victimes voudraient, ou les communautés, ou les survivants de la violence voudraient voir le problème, le mal qui leur a été causé, être réglé. Certains vous diront, moi je veux des poursuites, d'autres vous diront, moi je veux juste donner le pardon, je veux être reconnu, je veux un travail de mémoire, je veux la restitution des restes des membres de ma famille. Donc il y a une diversité de réalités et de desiderata qu'il faudra prendre en compte et adresser à travers des mécanismes appropriés. Mais ce que les Nations Unies recommandent et qui ne peut pas être mis de côté, c'est que définitivement, on ne peut pas faire l'économie de poursuites au moins pour les crimes les plus graves. C'est-à-dire, il faudrait au moins qu'un échantillon assez représentatif d'auteurs puisse véritablement être poursuivi de manière à pouvoir créer les conditions d'une reconnaissance, d'une transgression des règles, des lois et règlements du pays, de manière à véritablement donner l'exemple aux autres. Donc l'idée est de créer les conditions de non-répétition pour faire en sorte que le cycle de violence qui affecte le pays ne puisse plus
se reproduire. En fait, voilà. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de la justice transitionnelle à RDC. Charles Kisimba nous appelle de Lubumbashi et Benjamin de Kananga.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC. Produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Nous parlons de la justice transitionnelle à RDC. Où en est-on avec ce projet? C'est quoi la justice transitionnelle? Eh bien, nous en parlons avec nos invités. Nous avons deux auditeurs en ligne. Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi aux invités.
Quelle est votre question, Charles? Bonjour.
Oui, c'est bien le dire Charles Kisimba Salangueta. D'entrée de jeu, monsieur Jody, je voulais un peu demander à maître Rifai Louko. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'atténuer les mots, parce que le concept apparaît presque nouveau, surtout dans les oreilles des profanes. Il n'y a pas moyen d'atténuer les mots, d'être un peu trop bas avec les explications. Maintenant, ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a un lien entre justice transitionnelle, crimes contre l'humanité, ainsi que les génocides? Ça, c'est ma première question. Oui, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que la justice traditionnelle peut être aussi frappée de ce qu'on appelle dans les jargons juridiques l'extension de l'action publique? Est-ce que la justice ministre transitionnel peut être aussi frappé de l'extension de l'action publique. Voilà un peu mes petites questions.
Merci Charles. Benjamin de Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Joly Daniel Kachama, bonjour aux invités et bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup Monsieur Joly pour l'octroi de la parole. D'abord, j'ai beaucoup aimé la reformulation de votre sujet. Où en est-on aujourd'hui avec la justice transitionnelle? Monsieur Joly, je me permets de dire que aujourd'hui, les victimes des différentes violations commises entre 1993 jusqu'en 2003 sont fatiguées et elles ont perdu de l'espoir. Pourquoi? Parce que apparemment, tous les moyens que le gouvernement et même les autorités mettaient en place pour remettre ces derniers dans leurs droits étaient vraiment voués à l'échec. Mais c'est jeudi. Moi, je pense qu'en RDC, les autorités nous ont habitués à un système tel que donc les dire beaucoup. Donc, parce qu'il y a eu ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Mais dans la pratique, il n'y a absolument rien qui se réalise. Pour vous rappeler, ici au Kassai, pas que moi, sur le maire du Kassai, en 2017, il y a eu le massacre. Beaucoup de personnes ont été tuées ici au Kassai. Et le rapport du Kassai est contenu dans le rapport des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais c'est aujourd'hui, posez-vous la question. Qu'est-ce que la justice attend jusqu'à aujourd'hui pour sanctionner tous les auteurs des différents crimes commis au Kassai? Qu'est-ce que les Nations Unies attendent? Parce que les Nations Unies, là, ont ce rapport-là. Donc, c'est un véritable problème, mais c'est jeudi. Donc, nous pensons que les autorités, à ce moment, doivent nous laisser libre, au lieu de nous embrouiller pour dire non, il y a de tels moyens qui sont mis en place pour réparer tout ça, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps, et dans la pratique, il n'y a rien qui est fait, mais c'est jeudi. C'était au moins ça ma contribution.
Bien, merci. Maître Edmond Bokolo Dembandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que le débat sur la justice transitionnelle, c'est un débat qui revient à tout moment. Et puis, nous avions pris connaissance du rapport Mapping où il y a eu des violations graves des droits de l'homme. Il y a même certains acteurs qui ont été cités. Moi, je pense que, en suivant même celui qui m'a précédé, il tient à ce que la justice congolaise puisse sanctionner les acteurs qui sont, et les auteurs, bien sûr, qui sont cités. Moi, je pense que, à ce moment ici, vous allez voir que la plupart des personnes qui sont citées dans les rapports Mapping, par exemple, ce sont les acteurs politiques, ce sont des personnes qui ont de grandes responsabilités dans ce pays. Et je pense que la justice interne ne sera pas à mesure de pouvoir les punir. Voilà pourquoi, avec notre prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui insiste toujours pour la mise en place d'une justice transitionnelle. Donc, nous devons avoir un tribunal pénal international qui pourra quand même enquêter profondément et faire foi également à ces rapports des Nations Unies, afin que les auteurs de violations graves des droits de l'homme soient punis et que, bien sûr, comme on le sait, la justice transitionnelle a aussi une vocation de la réparation. Les victimes également ne peuvent pas être délaissées, ne peuvent pas être abandonnées comme ça. Les juges doivent avoir quand même bénéficié d'une certaine réparation. Voilà. Mmh. Et ça sera quand même une bonne chose. Et vous allez voir que lorsque cette justice sera instituée, ça sera quand même une grande avancée sur la bonne gouvernance, l'état de droit, et ça va également éradiquer l'impunité qui a beaucoup circulé dans ce pays.
Merci, Maître Edmond. Dadi, vous êtes à Ituri. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation va dans le sens de l'interprétation de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans son article 149, qui prévoit qu'il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. Cet article continue encore en disant « La loi peut créer des juridictions spécialisées ». Comment notre invité interprète cet article? Ça, c'est ma première question. Un autre commentaire que je voulais faire, c'était par rapport à des dispositions qui sont toujours dans notre Constitution. Nous sommes toujours souvent en train de voir des gens agir dans le sens contraire de notre Constitution que je suis en train de voter ici, à travers des tueries, surtout nous qui vivons ici à Ituri. En écoutant parler de cette justice transitionnelle, ça nous rassure ou encore ça nous donne un espoir en sachant que malgré les crimes que nous sommes en train de vivre ici sur place et des atrocités qui chaque fois nous mettent vraiment en questionnement nous-mêmes par rapport à notre vie, notre survie, et à des textes qui sont connus hein, où les droits de l'homme doivent être protégés. Que pouvons-nous espérer dans l'avenir très proche
d'accord.
par rapport à tout ce que nous vivons?
Merci. Merci Dadi depuis Touré. Maître Rufin, vous avez la parole.
Oui, merci. Donc, on va commencer par la question de l'auditeur. Merci pour toutes vos questions. Le premier auditeur a posé la question de savoir si la justice transnationale a des rapports avec les crimes internationaux, donc les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, quels sont les rapports,
les génocides,
Et puis il est revenu sur la question de la prescription. Est-ce que c'est cette justice-là a un regard en ce qui concerne la prescription des peines ou des faits? Alors, rapidement, nous allons lui répondre en rappelant que la justice transnationale, c'est pour donc l'option est élevée qu'il y a des crimes qui ne peuvent pas rester impunis. Et ces crimes-là ont la particularité, de par la gravité de leur commission ou de leurs dégâts, de toucher la conscience et la moralité de toute la communauté internationale. C'est pourquoi on les appelle des crimes internationaux. Donc, ce n'est pas des crimes nationaux. Ils peuvent avoir des connotations nationales, mais de par leur caractère spécifique et grave, touche la communauté internationale. Donc, c'est-à-dire, comme le massacre et le viol qui ont eu lieu à Songomboyo, dans la province de l'Équateur, en RDC, a touché la communauté internationale. Songomboyo, c'est un village que même un Quinois avait à peine de savoir qu'il y a un village qui s'appelle Songomboyo.
On parle aussi de Makobola.
On parle de Makobola, des Kasika sont devenus des noms internationalement connus par rapport aux crimes qui ont eu lieu là-bas, qui est ont un caractère international, ont une nature internationale.
Même la guerre des six jours à
Kisangani. Même la guerre des six jours à Kisangani, donc voilà, c'est resté dans la mémoire de la communauté internationale que jamais ça ne peut rester impuni. Et pour la prescription, c'est donc ça c'est lié. La prescription, ça veut dire ces infractions-là à caractère, à nature internationale, sont imprescriptibles. Donc il n'y a pas de prescription. Ça veut dire 100 ans, on va continuer à poursuivre. Si les auteurs sont encore vivants, on va
donc,
le
il
rechercher.
Il n'y a pas de délai.
Il n'y a pas de délai pour ces infractions-là. Et ce qu'il y a, il y a Makobola, Kasika, Mwenga, pour ne citer, et ça, il y a, ici au Bandundu, ici dans la province, Kwilu, donc, ce qui est en train d'être jugé par la justice militaire. Ce qui a lié.
Vous parlez de Yumbi?
Yumbi, évidemment, exactement, Yumbi. Ce qui a lié avec le Kamwena Nsapu. Ça, ce sont des crimes locaux, mais à nature internationale. Donc l'impact, le mode opérationnel, les effets sont des crimes internationaux. Vous ne pouvez pas fuir la justice. C'est comme certains croient qu'ils peuvent fuir la justice pendant longtemps. La justice vous poursuivra jusqu'à ce que vous puissiez.
Et même ce qui se passe à Beni.
Mais ce qui se passe à Beni a un caractère international. C'est parce qu'on refuse. Une certaine communauté internationale ne veut pas constater que ce sont des crimes internationaux qui sont en train de se commettre à Beni pendant maintenant plus de 4-5 ans. Ce sont des crimes internationaux. Ce qui se commet à Nitouri, ce sont des crimes internationaux. Ce qui
se commet
dans les Djougou, ce qui se commet dans les plateaux de Minembwe, ce sont des crimes internationaux. Tout ça, les auteurs, et parce qu'il n'y a pas justice, c'est pourquoi ça se répète. Ça a commencé depuis les années 90. Là, nous sommes dans les années 90, 91, 93, 94, jusqu'à ces jours. Ça s'est poursuivi parce qu'une certaine communauté internationale refuse. Et nous saluons là l'intervention de la Belgique, même si c'est une intervention prou, ça veut dire petit. $1,500,000, c'est pas quelque chose qu'on doit donner à la RDC. Laurent Désiré Kabila nous avait déjà appris que même 10 millions devaient refuser. La RDC doit refuser un dos de 10 millions. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est une gérifinance. Lorsque vous nous
mais,
amenez.
Mais pour mettre en place cette justice transitionnelle, est-ce qu'il faut. Le financement viendra du gouvernement ou
non, de la communauté internationale.
De la communauté internationale.
C'est comme le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone. Le tribunal pénal spécial pour le Centrafrique. C'est la communauté internationale qui nous tous, par rapport à ces engagements vis-à-vis de toutes les nations, qui contribuent d'une manière significative. Vous voyez, par exemple, le tribunal pénal spécial pour le Rwanda à Arusha, c'est plus de 20 milliards qui ont été engloutis.
Plus de 20 milliards.
Engloutis. Alors, pour la RDC.
Financé par la communauté internationale.
Par la communauté internationale. Pour la RDC, voyez-vous, pour la RDC, la communauté internationale dépasse chaque année $1 milliard pour la MONUSCO. Donc, pour l'intervention, le maintien de la paix ici. Et donc, qu'est-ce qui manque?
pour que l'on puisse intervenir à de l'ordre d'autant de millions pour que cette justice transitionnelle, notamment le tribunal pénal spécial pour la RDC. Nous savons ceux qui s'y opposent. Et ceux qui s'y opposent, ce sont ceux-là qui ont été cités abondamment dans le rapport. Ce sont ceux-là qui s'y opposent.
Est-ce qu'on a déjà évalué, il faut combien pour la mise en place?
Il y a déjà des expertises pour évaluer, n'est-ce pas, la tribunal. D'ailleurs, pour réduire les coûts, je dis, et on avait estimé que si ces tribunaux-là, au lieu que ça soit spécial, ça c'est pour, n'est-ce pas, alléger les coûts, qu'on mette dans nos cours d'appel des chambres spécialisées, cours d'appel. Donc une chambre pour les crimes internationaux. Et ces chambres-là, chambre ça veut dire, c'est une composition dans la cour d'appel, pour réprimer tous ces gens-là, et que ces chambres-là seront animées, c'est-à-dire composées par des juges français, belges, grecs, juifs et consorts, donc de la communauté internationale, en fait que le caractère international de ces chambres-là puisse être consacré avec le pouvoir, n'est-ce pas,
et la chambre spécialisée.
Spécialisée. On les appelait des chambres spécialisées pour les crimes internationaux. Et ça permettrait à ce que ces juges-là atteignent tous les acteurs qui ont été imprimés dans ces crimes-là, qu'ils soient au Zimbabwe, qu'ils soient au Kenya, qu'ils soient en Afrique du Sud, partout
qu'ils peuvent se cacher, on peut les poursuivre.
Qu'on ait la possibilité de mettre la main sur eux. Et ça, c'est donc la question de ses compatriotes. Boko l'a soutenu, n'est-ce pas, le rapport Mapping par rapport au combat que Mukwege mène. Bokolo Mbandaka, Mukwege a mené ce combat, et ce n'est pas Mukwege seul, c'est toute la société civile derrière lui, c'est toute la population congolaise, c'est toutes ces victimes-là. Mukwege, c'est une incarnation. C'est pourquoi c'est lui qui se moque de Mukwege, nous touche, nous tous. Mukwege est l'avocat général de toutes ces victimes-là.
Il est le porte-parole de toutes.
Mukwege n'est plus un simple nom. Mukwege, c'est un défenseur de victimes des massacres, des viols et consorts, qui n'ont pas été défendus, qui n'ont obtenu aucune justice, et ça fait 20 ans.
Et qui n'attendent que réparation.
Et nombreux sont morts en attendant. Leurs enfants commencent à mourir. Il faut que nous tous, nous soyons conscients de la mobilisation, en fait, que cette justice transitionnelle ait lieu et commence même quelque part. Nous remercions notre justice qui se bat, même avec des moyens, avec l'état de droit. Nous voyons le procès qui se passe au Kasaï, notamment contre les experts des Nations Unies, contre leur massacre, les deux experts. Et ce qui a commencé avec l'affaire de Yumpi, il faut donc que nous commencions d'abord nous-mêmes, parce que la communauté internationale, je parle d'une certaine communauté internationale, ne nous appuie pas en fait que cette justice-là puisse avoir lieu, parce que tout simplement, on considère, par exemple, regarde, pendant 4 ans, aucune enquête sur Beni, aucune enquête internationale. Nous l'avons réclamé depuis longtemps, alors que ce qui se passe à Beni, ces massacres répétitifs, sont constitutifs de génocide, parce que ces massacres-là portent sur une tribu, et les gens sont tués parce qu'ils appartiennent à une tribu qu'on doit neutraliser, anéantir. Eh bien, ça, ce sont les éléments essentiels pour que la communauté internationale se réveille, mais refuse de se réveiller parce que on alerte, la presse alerte, cette communauté la refuse de se réveiller pour que ce qui s'est passé non seulement à Goma, Masisi, Walikale, Kamituga, Kasika et consorts ne soit pas doublé avec ce qui se passe à Beni.
Bien.
Et tout ça dans l'indifférence totale.
D'accord. Maître, je vais accorder la parole à monsieur Abdelaziz Thioye. Vous avez suivi Benjamin de Kananga qui dit, ben, il y a un rapport mapping qui a été fait même pour le Kasaï. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend, pour, juger ces crimes et puis, apporter réparation? Monsieur Thioye.
Merci, je dis. Non, il a raison de s'inquiéter effectivement des lenteurs notées dans le traitement des dossiers judiciaires. Je rappelle qu'il y avait 16 cas emblématiques qui avaient été identifiés il y a un peu plus de 3 ans maintenant, il devrait même dire 4 ans, et pour lesquels le Conseil des droits de l'homme avait décidé de demander à l'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme de déployer des faire médecine légale, des anthropologues, des spécialistes des empreintes dentaires, des ostéologues, des personnes qui pouvaient travailler à ouvrir les fosses communes, analyser les restes humains, les reconstituer, collecter des éléments de preuve pour soutenir les enquêtes. Cela a été en partie fait. Parce que 18, il y a plus d'une, si vous vous souvenez assez bien, il y a plus d'une centaine de fosses qui avaient été identifiées. Donc, on ne peut pas ouvrir toutes les fosses dans un laps de temps aussi court, mais au moins pour les fosses les plus emblématiques, Mulombodi, Nganza, les tueries de Nganza, l'opération porte-à-porte, les viols massifs de Mulombodi, d'autres dossiers, par exemple le dossier l'incident au cours duquel 35 policiers avaient été tués et décapités, tous ces dossiers, en réalité, ont connu des avancées. Je peux vous dire aujourd'hui que le dossier Mulumbudi et le dossier Ganza ont été transmis à la haute cour militaire, compte tenu du niveau d'implication de haut gradé de l'armée. Donc, mais tout est aujourd'hui presque fait pour qu'un procès puisse se tenir. Il y a des lenteurs et nous continuons à travailler avec la haute cour militaire, l'auditorat militaire, pour que ce dossier puisse être appelé très très rapidement au jugement. Pour donner l'exemple, il faut montrer aux victimes et aux communautés, aux survivants de cette violence-là, qui souhaitent que justice leur soit rendue, qu'il est possible et qu'ils peuvent croire en leur justice et que la justice va s'abattre sur les auteurs.
Monsieur Thioye, une autre question de savoir quels sont les mécanismes de financement de la justice transitionnelle mis en place afin d'aboutir à la mise en place d'un tribunal international pour la RDC par rapport aux crimes documentés dans le rapport Mapping.
D'accord. Il y a plusieurs choses. Je salue le travail remarquable qui est fait par Dr. Mukwege, qui est devenu, je pense, qui a permis de donner le premier coup il y a un peu plus d'une année, qui permet aujourd'hui, déjà depuis 2019, dès qu'il a reçu son prix Nobel, il a mis cette reconnaissance au compte de la lutte pour l'impunité, contre l'impunité, excusez-moi, en RDC. Donc je pense que c'est extrêmement important. Il appelle à la création d'un tribunal pénal international qui, entre autres, un mécanisme aussi de poursuite judiciaire, couplé à un mécanisme qui pourrait être national et s'adresser et concerner les cas qui ont eu lieu à RDC, tel qu'on l'a dit. Hein, on a parlé des chambres mixtes, des chambres spécialisées, où il y a une loi sur les compétences partagées qui existe aujourd'hui en RDC et qui attribue des fonctions et la compétence pour les crimes considérés comme internationaux, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre, aux juridictions au niveau d'appel civil. Mais la difficulté que nous avons, c'est que la justice civile n'a pas, au cours de ces dernières années, acquis suffisamment les juges ne se sont pas fait la main au même niveau que les juges militaires. Les juges militaires, à force de travailler avec des experts internationaux, sont devenus aujourd'hui d'excellents experts sur des catégories de crimes internationaux, des crimes qui relèvent du statut de Rome. C'est de ça que nous parlons. Mmh. Et c'est extrêmement important. Ce sont des catégories de crimes qui sont imprescriptibles et sur lesquelles il faut vraiment se faire la main en termes d'éléments de preuve, le niveau de preuve qu'il faut rassembler pour pouvoir asseoir les charges contre les prévenus, pouvoir travailler avec les victimes et mettre en branle les éléments de procédure. La justice militaire a acquis cette lettre de noblesse. La justice civile devrait le faire. Nous sommes en train, avec le ministère des Droits humains et le ministère de la Justice, d'imaginer des formules qui pourraient mettre ensemble ces juges-là très expérimentés, militaires, avec des juges civils, pour donner la possibilité à cette loi sur les compétences partagées de pouvoir véritablement connaître une effectivité en RDC et qui pourrait permettre de jouer le rôle qui était donné aux chambres spécialisées ou aux chambres mixtes, si vous voulez. Mais la création d'un tribunal pénal international demande beaucoup de ressources. Il a été imaginé, et vous avez suivi tout le débat sur cette théorie du double génocide. Nous avons avancé l'idée de la possibilité, pourquoi pas le mécanisme résiduel qui s'est penché sur le génocide rwandais qui est à Arusha ne pourrait pas quelque part servir un peu à peut-être se saisir de la responsabilité de certaines catégories d'auteurs qui seraient étrangers, qui ne seraient pas congolais. Il y a des réflexions qui sont en cours pour voir la meilleure formule, parce qu'en réalité, malheureusement, le précédent du tribunal pénal sur le Rwanda, sur la Yougoslavie, refroidit un peu les ardeurs de la communauté internationale en termes de mobilisation des ressources dans un gouffre financier qui prendrait du temps et qui ne pourrait pas peut-être répondre à l'objectif visé. Donc pour l'heure, nous n'attendons pas que ça se mette en place. Nous avançons avec la justice militaire, avec la justice congolaise, avec les moyens maigres qui sont disponibles, mais en les renforçant, en leur donnant la possibilité d'aller vite pour traiter certains cas qui, dont les auteurs sont congolais et pour qui peuvent être attrayés devant les juridictions et qui répondent de leurs actes. Donc, le financement, forcément, la communauté internationale, au nom de la solidarité internationale, parce que c'est le fondement des crimes internationaux, c'est que ce sont des crimes contre la conscience de l'humanité. Contre la conscience de l'humanité. Donc, l'humanité est représentée par, dans sa diversité par les États membres des Nations Unies, par la communauté internationale. Donc, elle a cette exigence de solidarité et d'apporter des ressources. Mais, pour la viabilité, il faut aussi un niveau d'appropriation nationale. C'est là où je disais tout à l'heure qu'il serait important d'avoir une politique nationale qui permette de pouvoir clairement présenter une politique nationale devant le Parlement qui voterait un budget. Même si le budget est maigre, ça montrerait un peu le niveau d'investissement et d'importance que le Congo, les autorités congolaises, à travers les représentants et le gouvernement, donnent comme importance et comme priorité à cette tâche-là. Et la communauté internationale viendrait apporter aussi
son appui.
Donc c'est dans les deux niveaux. Voilà, c'est ça.
Bien, merci Monsieur Abdelaziz Thioye. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci, merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs. Bonne
journée. Bien, nous parlons de la justice transitionnelle dans Okapi Service. On va accueillir des auditeurs, Jean Moulumba de Kisangani et Gilbert Lokwa de Mbandaka. Rapidement, Jean, bonjour.
Bonjour, Moussé Zodi et l'invité.
Quelle est votre question, Jean Moulumba?
Oui, j'avais deux questions à poser à Maître Lucien. La première, c'est de savoir, après avoir documenté ces rapports Mapinge, quelles sont les recommandations qui ont été faites sur ces rapports? Et la deuxième question, qu'est-ce qui bloque pour que ces rapports puissent être en exécution? Parce que si je vois beaucoup de nos politiciens congolais qui sont en fonction des députés, des sénateurs, sont aussi cités dans ces rapports. Alors je ne sais pas si ce sont eux qui bloquent ou comment. J'ai voulu aussi dire que quelque part aussi, moi je trouve que c'est la communauté internationale qui est failli à sa mission. Parce que si j'ai suivi bien le maître Ruffin disait que c'est la communauté internationale qui doit financer. Alors ils étaient seulement pressés de faire les rapports et après avoir les rapports, ils devaient financer et commencer directement.
Merci. Merci. Alors, merci, Jean. Oui. D'accord, merci. On va donner la parole à Gilbert Lokwa de Mbandaka. Bonjour.
Oui, bonjour la radio Kapi et bonjour aussi à l'invité, c'est Gilbert Lokwa de Mbandaka.
Quelle est votre question,
moi, j'aurais seulement une question à poser à l'invité, mais avant tout, je dois avouer que tant qu'il n'y a, pas encore une justice transitionnelle dans notre pays, quand est-ce que les victimes sont toujours les dégâts commis par ces bourreaux restent toujours infinis, il n'y aura pas la paix dans notre pays. Parce que si aujourd'hui vous voyez même à l'est, les gens continuent à mourir. Les gens continuent à fabriquer, à créer des groupes armés, parce que la paix, les gens ne sont pas au courant que lorsque vous commettez des crimes, vous serez sanctionné un jour.
Quelle est la question que vous adressez à Maître Ruffin? On n'a plus beaucoup de temps.
Oui, la question que je voulais poser à l'invité, c'est juste de savoir, parce qu'aujourd'hui on parle des justices transitionnelles, mais moi je voulais juste savoir, est-ce qu'on veut créer une justice transitionnelle par les gens qui ont tué et qui continuent toujours à tuer le Congo?
D'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen, comme le Congo a ratifié des accords où le Congo est membre de la CPI. Est-ce qu'il n'y a pas moyen seulement de donner la CPI cette qualité-là, de juger ces crimes-là? Parce que si on va toujours attendre de créer une justice transitionnelle,
ça prendra du temps.
Les gens qui ont censé à créer cette justice sont les gens qui ont tué et qui continuent toujours à tuer. Ça,
d'accord.
Les gens-là continuent toujours à appeler la création de cette justice.
Merci, Gilbert.
De donner seulement la CPI cette qualité-là.
Oui. D'accord, merci. Justin, vous êtes à Kinshasa. Pardon, Albert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Kapi. Bonjour aussi à monsieur l'invité.
Rapidement, bonjour. Quelle est votre question, Albert?
Vraiment, j'ai deux préoccupations vraiment qui sont très très intéressantes et qui m'inquiètent à tout moment, ou même si je marche. Le problème, c'est quoi? La justice est congolaise. En allant dans la Constitution, parmi les 229 articles de la Constitution, quand vous êtes ensemble avec moi dans la Constitution, dans son article 12, qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. En un mot. Le problème, c'est quoi? Je dois commencer par exemple. C'est que la justice congolaise m'a inquiété.
Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Passez directement à la question.
Ok, ma préoccupation est la suivante.
Oui.
Quels sont les mécanismes que la justice congolaise a mis en place en ce qui concerne les dossiers de Mamadou Ndala? Parce que Mamadou Ndala a été tué par. Ne fut pas tué par les rebelles, il fut tué par les soldats du gouvernement congolais. Mais jusqu'alors, là, on n'a pas mis l'accès à la justice assez concerné Mamadou Ndala.
Merci.
Ma déjà préoccupation, c'est qui s'est passé à l'Équateur. Oui. C'est qui s'est passé à l'Équateur dans la rébellion de Niel. On avait récupéré le papa d'Ojani dans la justice, mais où est-ce qu'on l'avait mis, où on l'avait poursuivi pour lui mettre à la justice? Et chez nous, par exemple, à Makanda, on a massacré la population dans les territoires de Makanda. Et nous voyons même les Enyelelas qui sont revenus présentement à Makanda, qui les marchent, et nous avons des aides parce qu'ils avaient tué non.
Merci, Albert. D'accord.
À ce moment, on les voit et ils marchent.
Merci, Albert. Maître Ruffin, vous avez la parole.
Bon, en ce qui concerne, il parle de procès Colonel Mamadou Ndala, il y a eu procès. Et ce procès-là avait établi qu'il y a un certain colonel Birocho de renseignements militaires qui serait l'un des renseignements militaires de notre pays. Mais ce procès-là avait bâclé parce que la société civile et toute la population avaient dénoncé la manière dont cela avait été conduit en tournant la cible, les caméras vers nos propres militaires, alors que sur les lieux du crime, on a eu les traces, n'est-ce pas, de l'implication de nos militaires. Donc il y a eu procès, donc peut-être il faut réviser ces procès, il faut reprendre les enquêtes maintenant par une justice plus ou moins non orientée, plus ou moins indépendante, comme on a un nouvel auditeur général qui est fils de notre justice militaire et qui a prouvé par sa compétence à ce qu'il peut mener des choses comme ça et que nous pouvons lui faire confiance. Alors qu'est-ce qui bloque? Selon notre auditeur de Mbandaka, qu'est-ce qui bloque? Et quelles sont les recommandations de la Mapping? Les recommandations de la Mapping, rapidement, c'est le rapport Mapping a recommandé la justice transitionnelle et un tribunal spécialisé pour la RDC. Un tribunal donc pénal
qui demande beaucoup de moyens pour la
mise en place. Pas nécessairement, parce que ce qui demande beaucoup de moyens, c'est lorsque c'est la communauté nationale qui fait celle finance. Mais lorsque c'est mixte. Spécialisé, il y a des juges congolais, des juges internationaux, c'est-à-dire des juges venus d'autres pays, eh bien donc l'assiette ne sera pas très lourde, donc la facture ne sera pas très lourde. Alors, qu'est-ce qui bloque?
Le gouvernement congolais avait d'ailleurs prévu deux projets. Ouais. Un projet de décret de création d'une commission nationale de justice transitionnelle
tout
et de conciliation. Et un deuxième décret pour la création d'un fonds d'indemnisation des victimes.
Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce que, attends, les bourreaux, parmi eux, il y a même ceux qui sont acquisés. Il y a même un qui est devenu ministre de la Justice en RDC. Alors dis-moi, les bourreaux parviennent à avoir même un ministre de la Justice. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc les victimes continuent leur deuil. Lorsque les bourreaux d'hier, le lendemain, ils deviennent même ministre de la Justice du pays dont ils demandent victime. C'est le cas de la RDC malheureusement. Donc les bourreaux se sont retrouvés partout, ils sont partout et ils bloquent tout. Les bourreaux, ce sont eux qui bloquent. Donc, pour notre
auditeur. Mais il semble que c'est dès qu'il y a
et les bourreaux sont partout.
Si le gouvernement, il y a la volonté au niveau du gouvernement,
voilà.
On peut toujours avancer.
Oui, mais la volonté doit être vraiment, comme on dit, vertébrée. Une volonté vertébrée, une volonté avec une colonne vertébrale en acier. C'est-à-dire, il faut tenir fort, parce que les revendications de nos victimes sont nombreuses. Vous voyez, Mukwege a failli à combien de fois sa vie. Parce que c'est lui le porte-étendard. Donc, il faut avoir une colonne vertébrale. Mukwege est devenu prix Nobel par rapport à sa résistance à sa lutte. Donc, vous voyez, donc, il faut avoir une
volonté solide
pour aller jusqu'au bout. Parce que la pression est énorme, les bourreaux sont partout et il faut toutes sortes de pratiques, des choses
pour décourager
pour empêcher la, la mise
voilà,
en place.
Et Mukwege a été plusieurs fois, n'est-ce pas, inquiété, intimidé. Et heureusement, la communauté, une certaine communauté nationale s'est réveillée que non, il faut tenir et il faut soutenir Mukwege jusqu'au bout. Donc, en définitive, par rapport à cette question-là, donc, ce qui bloque, je l'ai dit, celui-ci qui parle de la constitution, mais la constitution prévoit évidemment que nous pouvons créer des tribunaux spécialisés. Nous avons, par exemple, le tribunal du commerce, c'est un tribunal spécialisé, les tribunaux pour enfants, les tribunaux de travail, ce sont des tribunaux spécialisés.
Monsieur Abdelaziz du bureau conjoint a dit que la justice militaire est déjà très avancée.
Justice militaire, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est très avancée. C'est pourquoi nous avons reçu un prix qui fait de nous la justice qui a donné un procureur spécial pour la Centrafrique. La justice militaire congolaise. Elle est parmi les meilleures d'Afrique. J'ai la justice militaire congolaise. Donc, nous en sommes fiers. Nous avons écrit là-dessus. Nous avons fait des émissions pour démontrer les efforts que le gouvernement congolais a fait pour que notre justice militaire soit parmi les plus, et c'est ainsi que d'ailleurs le drame des violences sexuelles a réussi quelques bons résultats par l'intervention de notre justice militaire. Elle est la seule, d'ailleurs, c'est elle qui a commencé l'état de droit. C'est la justice militaire qui a condamné le premier, le ministre de l'intérieur de la province de Kinshasa, et l'a ramené en prison. C'était un politicien puissant des partis au pouvoir, mais c'est la justice militaire qui a commencé l'état de droit. Donc, ce genre de choses.
Donc, il faut le souligner. Avoir des juridictions spécialisées avec la justice militaire.
Rien à faire. Bon, évidemment, parce qu'on sait que la justice militaire a toujours été très sévère. La communauté en train de crier, c'est pourquoi on fait qu'il y ait aussi des juges civils. Des juges civils. Parmi nos juges, il y a des meilleurs. Notre justice, c'est vrai.
Tous nos juges ne sont pas corrompus, comme on le dit.
C'est pas seulement la corruption qui a le problème. Oui. Il y a beaucoup trop de problèmes moraux et consorts. Mais parmi nos juges civils, il y a aussi des meilleurs qu'on peut mélanger, comme il a proposé le directeur du bureau conjoint. On mélange les juges militaires efficaces avec les juges civils pour que les juges civils soient mis à niveau, en fait qu'ils produisent également le même résultat.
Et terminons en disant que la justice transitionnelle a quatre piliers. Nous avons la recherche de la vérité,
voilà,
les poursuites judiciaires, les réparations et les réformes institutionnelles.
Voilà, et donc nous sommes déjà en cours et en ce qui concerne les réparations, c'est là où on attend. Et en ce qui concerne la justice, il faut donc qu'on installe les chambres spécialisées ou un tribunal pénal spécial pour la RDC. Donc cette justice internationale, nous la soutenons, mais pas avec 1,5 million CP. Il faut que le pays qui donne l'expression d'intention,
ça soit
des montants significatifs.
Maître Ruffin Louko, juriste et chercheur en droit, merci.